Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika.
Bonjour, 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 galériennes, galériens, en ce mercredi 18 décembre 2024. Toujours l'émission Livres et Amis, mercredi de 11h à midi, ou Livres et Amis avec Dominique et Françoise au micro, et aujourd'hui Sonia à la technique, merci. Soleil et nuages sur Marseille, ouais, pas trop l'hiver encore, mais quand même, on prépare les fêtes, on voit le petit froid, le petit frisquet, elle a pointé le bout de son nez. J'avais l'impression qu'il n'y avait plus trop de gabions qui tournaient en ville, et puis aujourd'hui, paf, là, j'arrive à la friche, et grand vol de gabions au-dessus de la friche. Donc, bah voilà, nos oiseaux sont toujours là, ils mangent toujours les rats, c'est bien, ça fait du nettoyage. Et oui, hein, il faut bien quand même observer la ville au jour le jour. Donc, comme la semaine dernière, je vous avais laissé tomber, excusez-moi, enfin nous vous avions abandonné pour, de ma part, une obligation familiale, et donc on vous avait laissé avec une rediffusion. On va reprendre aujourd'hui le cours de nos émissions en direct. On vous abandonnera à nouveau pour les fêtes, enfin je vous dirai ça tout à l'heure. Et c'est vrai que j'avais bien pensé, mercredi dernier, lire un livre d'un auteur franco-syrien. Donc, comme je ne l'ai pas lu la semaine dernière, eh bien, nous allons le lire cette semaine. Nous nous retrouverons donc le 8 janvier avec peut-être d'autres actualités, mais en attendant... bah oui, c'est la fin de l'année, je vais vous inviter à pas trop consommer, hein, c'est pas une raison, ou plutôt à consommer solidaire, à consommer des produits d'occasion, à consommer dans le cadre de l'économie, je disais solidaire, mais aussi de circuits courts, à faire des cadeaux culturels. Par exemple, je suis allée à la Baleine, là, il n'y a pas très longtemps. Il vous invite à donner comme cadeau des cartes d'abonnement au cinéma. Ben voilà, ça, c'est un bon cadeau de fin d'année. Des livres, bien sûr, mais des livres de poche ou des livres d'occasion aussi. On m'entend pas bien ? Il faut que je parle un peu plus près du micro, d'accord. Donc j'espère que vous avez entendu quand même tous mes conseils de non-consommation ou de consommation responsable. Et puis oui, je parlais du cinéma. Bah, par exemple, au cinéma passe en ce moment l'histoire de Souleymane, qui est une histoire pas très réjouissante, mais qui montre bien les problèmes des migrants quand ils essayent de s'en sortir, entre guillemets, dans notre bonne France, et avec quand même les difficultés, bien sûr, qu'ils rencontrent quand on leur propose des emplois précaires, des choses qui relèvent de l'exploitation, de la précarité, etc. Enfin, bref. Nous allons essayer de bien finir l'année en n'étant pas trop bêtes et nous allons la commencer en étant encore moins bêtes, bien sûr. Et on vous retrouvera donc, je l'ai dit, j'ai déjà, je crois, le 8 janvier. En attendant, oui, depuis le dimanche 8 décembre, nos amis syriens pavoisent ou simplement se réjouissent de la chute du système Al-Assad. Hafez et Bachar Al-Assad se sont succédés pendant 50 ans dans une dictature qui est devenue une des plus sanglantes et une des plus oppressives et une des plus capitalistiques. On a découvert là, très récemment que, par exemple, le régime fabriquait des tonnes de captagons pour inonder le Moyen-Orient et peut-être un peu l'Europe de petites pilules qui font rire. Bah oui, on avait bien besoin de pilules qui font rire, mais enfin, en les achetant à des systèmes capitalistico-dictatoriaux, ça existe, c'est ça ? C'est quand même de la folie furieuse. Donc, bref, Les Al-Assad ne sont plus là. Les Syriens s'en réjouissent parce que la pression policière, la pression de l'armée se sont quand même bien relâchées. En Occident, peut-être, on est un peu, comment on dit, précautionneux. Enfin, on a un enthousiasme moins total de cette chute parce que, bien sûr, on se réjouit de la chute du système Al-Assad, mais on se demande toujours un peu ce qui va se passer derrière. Alors, tout de même, réjouissons-nous avec nos amis syriens parce qu'ils respirent mieux, parce que ça va mieux chez eux. Et dans tous les cas, on peut leur souhaiter que maintenant, la Syrie se reconstruise dans des conditions nettement meilleures. Alors, notre livre, c'est un petit livre d'un écrivain, dira-t-on un écrivain syrien ou un écrivain français né en Syrie. En tout cas, un écrivain qui aime la littérature arabe classique et la littérature française contemporaine. C'est Omar Youssef Souleymane. Donc Omar Youssef Souleymane, il est né en Syrie, il y a vécu son enfance et puis il est parti avec ses parents qui étaient dentistes en Arabie Saoudite. Et ensuite, il est rentré en Syrie. Il a commencé dès 2011 à prendre part à la révolution et à la rébellion. Et évidemment, il a été obligé de se cacher. Donc, au bout d'un temps assez court, il a même été obligé de quitter le pays parce que si lui se cachait, sa famille était menacée par le pouvoir en place. Donc, il a quitté la Syrie en passant par la Jordanie. C'est la première partie de son livre. On va lire cette partie de façon assez extensive parce que quand il traverse la Jordanie, quand il demande son visa pour la France, il y a dans ce récit tout un tas de choses qu'ont vécu bien d'autres en même temps que lui, ou à la même époque, ou un peu avant, ou un peu après. Et je trouve que ce témoignage de départ en exil est vraiment intéressant. Sur la couverture du livre, il y a une photo d'enfant, c'est lui. Et on ne voit que la moitié de son visage. Donc peut-être que c'est un petit peu ça, la clé de l'histoire. C'est lui, un peu comme s'il était coupé en deux entre son lieu de naissance et son lieu d'exil, coupé en deux dans sa tête aussi, entre son enfance ou son adolescence dans l'islam, et puis sa jeunesse et son jeune âge adulte dans le refus de l'islam qu'il raconte à la fin du livre. Alors d'abord, revenons d'abord au début, avec le récit de son arrivée en France et le récit de son exil qui lui trace les chemins justement de la France en passant par la Jordanie. Alors tout à l'heure, on écoutera de la musique syrienne, de la musique d'exil, mais en attendant cette pause musicale, commençons avec une première partie qui s'appelle « Rue de Paradis ». Eh oui, la rue de Paradis, il y en a une à Paris aussi, il n'y a pas qu'à Marseille. D'ailleurs, à Marseille, on dit plutôt la rue Paradis. Et avant d'arriver rue Paradis, il arrive en France à Charles de Gaulle, comme beaucoup.
Il est 4 heures du matin. En descendant de l'avion, je regarde le ciel. Parmi toutes les lumières qui éclairent l'aéroport Charles de Gaulle, flotte un croissant de lune rouge. En Syrie, c'est l'heure où ma mère se réveille, où elle sort dans le jardin faire ses prières. Voit-elle la même lune que moi? L'adresse m'a été donnée par un ami qui travaille dans une association d'aide aux Syriens. Me voilà aspirée dans le dédale du métro. Des dizaines de personnes montent et descendent si vite que je pense un moment à une catastrophe, un accident ou une rixe. Ce sont tout simplement des gens pressés. Au bout de quelques instants, mes pieds courent eux aussi, comme animés d'une vie propre. Autour de moi, des panneaux, des flèches, des mots auxquels je ne comprends rien. Des bribes d'une langue que je ne connais pas. Dans ma main, une petite feuille avec l'adresse où je me rends. Cette adresse, c'est une chambre de bonne rue de Paradis. Je trouve un coin vide, me rabats contre le mur. Regarde passer près de moi des gens de toute nationalité, tandis que me reviennent dans ce chaos les raisons qui m'ont fait venir à Paris. Comme j'ai imaginé cette ville, comme je me retrouve là dans une réalité qui n'est pas la mienne.
Où est ton fils ? On le trouvera, même s'il est parti sur Mars. Dans le désordre, les bruits de coups, les commandements. On hurle sur mon père. Il a été frappé, contusionné, il se relève. La veille de Noël, les services secrets sont venus, chez moi, chez lui, à El Koutaïfa, petite ville au nord de Damas. Ils ont fouillé toutes les pièces, toutes les chambres. Je n'étais pas encore très loin, seulement à Homs. Mais le lendemain, mon oncle a téléphoné. Il a dit qu'il fallait absolument que je m'en aille. Et j'ai compris que Damas ou El Koutaïfa, pour moi, c'était fini, c'était devenu une terre morte. C'est le visage de l'exil, le visage que je vois dans le miroir à Homs, où un médecin du réseau est en train de se charger de ma transformation. Déjà, il commence par masquer le grain de beauté sur ma joue, par changer la couleur de ma peau, celle de mes yeux, la coupe de mes cheveux. À mesure qu'on me couvre de maquillage, qu'on me tend le crâne, qu'on me donne des lentilles vertes, qui donnent à mon regard un drôle de reflet étranger, je découvre une nouvelle apparence. Mais finalement, je me plais davantage, je me trouve bien. Je souhaite, l'espace d'un instant, être née avec ce visage. Et puis de toute façon, maintenant, c'est le mien. Je suis ce personnage créé pour passer les contrôles entre Homs et Damas, entre Damas et la frontière. En mars 2012, je vis dans un grenier. Le plafond, lorsque je suis couchée sur le matelas, est à 1,5 mètre au-dessus de ma poitrine. Je me suis cachée à Damas, maintenant je me cache juste avant la frontière pour passer cette frontière. Impuissant. Alors que la révolution arabe bat son plein à l'extérieur. Mais les inspections incessantes rendent très périlleuse la situation des militants. J'apprends par l'appel d'un ami libéré de prison que je suis plus que jamais recherchée par les services secrets. Il faut absolument fuir, il faut fuir la Syrie. Je regarde le plafond, il se rapproche de moi.
C'est à ce moment que je décide de quitter la Syrie, en me persuadant que je reviendrai vite, dès que la situation s'améliorera. Je contacte Eman, un camarade que j'ai rencontré sur les bancs de l'université de Damas, où nous avons étudié la littérature arabe. Il habite Daraa, petite ville du sud, d'où il est donc moins dangereux de sortir clandestinement du pays. Je le prie de m'aider à trouver un moyen de fuir. Nos liens d'amitié sont forts. Il m'envoie un passeur connaissant par cœur les chemins détournés pour me mener à lui. Un certain Mohamed m'appelle pour me donner rendez-vous dans un quartier fréquenté de Damas. Nous sommes convenus d'un code. Arrive un homme au visage dur sous sa barbe. D'un geste de la main, il m'invite à le suivre. Sans mot dire, nous traversons les petites rues de la vieille Damas dont je regarde les pierres anciennes, les portes, les fleurs, comme si je les voyais pour la première fois.
Oui, aller-retour donc entre la frontière, Damas, le retour à la frontière, le passage par Daraa en effet, pour la Jordanie. Au coucher du soleil, l'homme silencieux me dépose devant chez Eman, où je dors une nuit, avant de repartir le lendemain matin vers un village tout au sud, Nasib. Depuis qu'il a perdu deux frères tués par le régime, Mohamed ne parle plus. Et donc, je n'ai rien su de lui. Un vieil homme me guide jusqu'à la maison où affluent beaucoup d'hommes de toute la Syrie pour tenter de passer cette frontière. Certains blessés pour être opérés, d'autres pour fuir un régime qui les recherche ou les oppresse. Et puis un peu plus loin, un groupe de femmes et d'enfants, leurs familles. Ils viennent aussi. On nous entasse dans un camion. Le vieil homme nous dit adieu, le véhicule s'éloigne et mon guide devient de plus en plus petit tandis qu'il nous fait de grands signes de la main. J'ai l'impression à le voir de loin qu'il se noie et que c'est lui qui lance les appels au secours. Les routes sont chaotiques, le camion nous secoue horriblement, comme si la terre syrienne nous punissait de chercher à partir. Pris de vertige, nous sommes là tous chaotés et nous avons envie, une seule envie, c'est quitter ce camion. Et puis quand même, nous restons là jusqu'à la frontière. Les couteaux, les rasoirs nous sont confisqués. Les papiers aussi. On nous fouille même avec soin pour vérifier qu'on n'a plus rien sur soi. Maintenant, vous êtes des réfugiés. Ce mot, c'est la première fois qu'il m'est adressé. La première fois qu'il me touche au cœur. Je suis un réfugié. Des larmes coulent sur mon visage. On nous donne de l'eau. Je bois. J'oublie de fermer la bouteille. Un peu d'eau se renverse sur la terre. Je sens que cette eau, mêlée à mes larmes, va arroser des graines perdues qui un jour deviendront des arbres, mais sans aucune identité. C'est la frontière. Au loin, de pâles lumières. La dernière et la première image de ces deux pays.
Je reste 3 jours dans un camp appelé Al-Ramta, au nord de la Jordanie. Là, je vois des Syriens qui ont fui une prison pour en gagner une autre. Nous nous retrouvons tous au moment des repas, toujours identiques, pommes de terre, pain et fromage. Et le soir, nous dormons dans de petites cellules aux portes de fer. La nuit, quand quelqu'un marche dans le couloir, on entend résonner longtemps le bruit de ses pas. Cela sonne comme la fin du monde. Le silence environne le camp. Les lumières des gyrophares se reflètent sur les murs de ma chambre. Une succession de traits lumineux. Qui suis-je ? Qui suis-je ? Qui suis-je ?
Un enfant debout, immobile, garde les yeux fixés vers le ciel, comme s'il attendait qu'une bombe en surgisse. C'est la dernière image que je conserve du camp au moment où j'en sors, grâce à Iman qui m'a obtenu la caution d'un citoyen jordanien. J'ai signé l'autorisation de sortie à l'heure du repas. Au milieu des baraquements s'allonge une file immense de réfugiés qui attendent leur tour, leur repas, on ne sait pas trop. À côté, un groupe de femmes fait la lessive dans des bassines en plastique. Dans un coin, des poulets se battent pour quelques miettes jetées à terre. J'arrive dans une chambre d'hôtel. Elle est grande, le lit est propre. J'enlève mes vêtements, j'emplis la baignoire d'eau chaude et de savon. Pendant la Révolution, quand j'étais clandestin, je prenais parfois des douches à la va-vite. Mais un bain, je suis au paradis. J'allume une bougie de décoration que je pose sur le rebord de ma baignoire. J'entre très doucement dans l'eau et je ferme les yeux. La flamme danse dans le noir. Quand j'étais petit, j'adorais faire flamber des allumettes et embraser des mouchoirs en papier dans le jardin familial. Une fois, j'ai jeté un mouchoir enflammé très près d'un bidon d'essence. Sans l'intervention de ma grand-mère, nous serions tous partis en fumée. Ce jour-là, elle m'a sévèrement punie. Et j'ai dû rester là, dans le jardin, tout droit, la tête penchée, sans vaciller, ni même sous les coups et les sanctions qu'on m'a données ensuite. Mais là, non, aucune punition n'a éteint mon plaisir. Voilà, je suis dans la baignoire, et on frappe à la porte. Je me réveille brusquement dans mon bain froid, la bougie s'est éteinte. À travers l'œilleton, je vois l'employé de l'accueil, mais ce n'est pas lui qui force la porte d'une violente poussée. C'est un homme qui pointe une arme contre mon cœur. Ouh, je croise un cauchemar, mais non, la peur parcourt mes veines et cette peur, elle est bien réelle. N'essaie pas de fuir, mets tes mains derrière la tête et enfile tes chaussures. J'obéis. 10 autres soldats entrent, se déploient dans ma chambre, la retournent de fond en comble, arrachent les draps du lit. J'ai pensé que c'était un groupe des services secrets syriens, mais non, leur accent me détrompe, ce sont des Jordaniens. Je baisse lentement les bras pour prendre des chaussettes, mes chaussures, dans le placard. Le commandant me crie de remettre mes mains à leur place. Et je me retourne pour lui faire comprendre que, il faut bien que j'enfile mes chaussettes et mes chaussures. La gifle me laisse sans voix. Si j'ai été fréquemment battue, enfant, personne ne m'a jamais touché le visage. Bon, dis la vérité, j'ai pas de temps à perdre. Qu'est-ce que tu es venu faire en Jordanie ? De quel groupe terroriste es-tu ? Sur mon visage rouge et enflammé, il y a même une larme fugitive qui trace un sillon brûlant. Qui t'a sorti du camp ? Mais un citoyen jordanien, c'est lui que je connais, c'est lui qui m'a procuré cette chambre. Tu racontes n'importe quoi, écoute bien, soit tu dis la vérité, soit je donne l'ordre aux hommes de t'emmener au service secret. Mais non, mais la vérité c'est ça, c'est je suis un réfugié, je viens d'arriver, je suis dans une chambre qu'on m'a procurée. Les hommes m'escortent jusqu'à la sortie de l'hôtel. Ils me mettent les menottes, m'ordonnent de garder les yeux fermés et un colosse me hisse sur son épaule comme un sac de pommes de terre pour me jeter dans une voiture. Quelles sont les charges contre moi ? Terrorisme ? Peut-être passerai-je des années dans une prison jordanienne en attendant qu'éclate la vérité si elle éclate un jour. Le colosse frappe régulièrement du plat de la main sur ma nuque offerte. Le plus dur, c'est d'imaginer que personne n'a connaissance de mon sort. Je pense à mon ami Ayman, à ma mère, à mon père, à tous mes amis syriens. Je lutte pour ne pas crier. « Ouvre les yeux !» Dans un éblouissement, je distingue un grand bureau. Derrière, un homme en costume et en cravate. Quel sentiment de panique me fait crier subitement. Les médias vont être alertés de ce que vous faites. Je suis journaliste. J'ai fui leur régime de Bachar el-Assad et voici, je suis arrêtée ici, sans charge. Que se passe-t-il ? L'homme est beaucoup plus calme. Il me dit d'ailleurs, « Calme-toi et raconte-moi comment tu es sortie de Syrie. » Bon, allez, j'y vais, de mon récit, je reprends tout ce que je viens de vous écrire, oui. Et c'est tout, je ne veux rien, je veux juste sortir d'ici, sortir de ce pays et trouver le moyen d'aller en France. Bon, nous sommes désolés, mais la situation en Jordanie est très troublée. Nous vivons encerclés, nous sommes sur une véritable poudrière. D'un côté, il y a les groupes de terroristes qui viennent d'Irak, il y en a d'autres qui viennent de Syrie. On ne sait même pas ce qui se passe avec les Palestiniens, parce que, évidemment, les Palestiniens se réfugient d'Israël, et ils sont là aussi. Enfin, bon, ton accent syrien t'a fait repérer à l'hôtel par un employé qui t'a pris pour un terroriste. Même si ta chambre avait été réservée par un Jordanien. C'est une erreur de notre part. Donc, j'aimerais bien que personne ne sache ce qui s'est passé. Tu veux une cigarette ?
Il me donne une cigarette que j'attrape de mes mains toujours attachées. Le colosse entre dans le bureau. Pendant qu'il me libère à l'aide d'une clé, je regarde ses yeux, faits du même métal que les menottes. Je fume avec un plaisir intense et troublant, comme si cela faisait une éternité que je n'avais pas fumé. Le Saïd ordonne à un soldat de me ramener à mon hôtel. Une fois dans ma chambre, encore interdit, je vois la porte s'ouvrir et l'employé de l'accueil m'apporter un plateau repas avec une bouteille de champagne. Comme une réparation, je le renvoie immédiatement avec la nourriture et le champagne. Mais je reprends vite mes esprits et lui demande les codes Wi-Fi de l'hôtel. Je consulte le site de l'ambassade française à Amman, note leur numéro, puis éteins mon ordinateur. Je m'allonge, ferme les yeux, les oreilles bruissant des insultes des soldats. Une mélopée infernale. Mon corps est ratatiné. Je sens un grand vide m'envahir, comme si j'étais le dernier homme de l'univers.
Oui, cette histoire de méprise, entre guillemets, et de brutalité policière, même si pour Omar Youssef Souleymane, ça se termine bien, ça donne une très petite idée de ce que peuvent subir, en effet, les gens jetés en prison d'une façon totalement arbitraire, sans jugement et sans grande information, en effet. Mais voilà, il a pris rendez-vous avec l'ambassade de France et il nous donne son écho de la France, ou plutôt de la langue française. De la langue française, je ne connais que 6 mots. Bonjour, bonsoir, au revoir, merci, pardon et liberté. Liberté, vous savez ce dernier mot qui est le dernier d'un poème de Paul Éluard. Lors de mes années d'adolescence, j'avais lu en secret le poème en arabe. Je l'avais appris par cœur dans sa traduction arabe. J'étais fascinée par la vie du poète. J'avais été touchée par sa quête de liberté. Et quelques années plus tard, aussi dans la traduction, j'avais lu Aragon, Baudelaire, Prévert. Célèbre dans les pays arabes à chaque révolution, voilà que ce poème prend aujourd'hui une teinte toute personnelle. D'un élan, j'appelle l'ambassade de France et demande un rendez-vous en urgence. 2 heures plus tard, un colonel, dont j'ai totalement oublié le nom, vient me voir à l'hôtel, m'interroge, prend une photo et s'en va, me laissant un peu étourdie. Voilà, j'ai franchi le pas, je suis un étranger et je vais être en exil. La nation d'Aragon et d'Éluard sera la mienne quelque temps. Et lorsque le régime de Bachar el-Assad sera renversé, je reviendrai chez moi. Je suis noyée dans mes pensées quand le colonel me téléphone pour fixer un entretien le lendemain après-midi à l'ambassade. Je jette le téléphone sur le lit, prends une cigarette, une tasse de café. De l'autre côté de la fenêtre, c'est vendredi, jour chômé, les rues d'Amman sont désertes. La crainte que quelqu'un frappe à ma porte, à nouveau, comme la veille, est partie. Mais oui, mais ça m'a ôté l'envie d'un bain. Alors, l'idée qui me procure le plus de plaisir, ce sont ces vers d'Éluard. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te nommer Liberté. Bon, on aurait pu le dire à plusieurs. C'est vrai que c'est un passage. Hein. C'est la recherche d'un laissez-passer. Ce laissez-passer, il va le trouver, en effet, à l'ambassade.
3 heures devant l'ambassadrice. 3 heures pendant lesquelles je lui raconte tout ce qui s'est passé depuis le début de la Révolution jusqu'à mon arrivée dans son bureau. Sa personnalité calme me donne le courage de parler encore et encore. Elle inscrit des remarques sur un carnet, me pose des questions en arabe avec un joli accent. À la fin de l'entretien, elle téléphone à un responsable administratif qui arrive vite, affable et souriant malgré le fait qu'il ait été appelé un samedi alors qu'il était tranquillement chez lui. « Ta taille, 1m71. Ton poids, j'ai oublié. » Une balance à l'ambassade me l'a révélé. L'employé a regardé mon visage et a noté « yeux bruns, cheveux bruns, date de naissance 19 mars 1987 à Al-Utafia, nom du père Youssef, de la mère Siba. » L'ambassadrice me dit qu'il est dangereux pour moi de rester en Jordanie un jour de plus. Je lui demande si je peux aller rapidement acheter quelques affaires de base, une tenue de rechange par exemple. Je n'ai que mon sac contenant mon ordinateur et quelques sous-vêtements. Elle refuse. Une heure plus tard, elle me donne un laissez-passer grâce auquel je pourrai circuler librement en France.
Oui, c'est assez incroyable d'ailleurs la façon dont ça se passe, la rapidité avec laquelle ça se passe, comparé effectivement aux démarches très longues que connaissent d'autres personnes qui, à la même époque, arrivent de Syrie et arrivent, disons oui, avec des visas de tourisme et doivent ensuite se faire admettre comme réfugiés une fois sur le sol français. La photo de Nicolas Sarkozy en costume, avec derrière lui le drapeau français, est accrochée sur un mur du hall de l'ambassade. Il regarde les gens d'un air que je n'aime pas. Les yeux fixés sur le sol carrelé noir et blanc, j'avance jusqu'à la grande porte qui s'ouvre sur un couloir et je peux fumer. Le chauffeur de l'ambassade entre, c'est lui qui va m'accompagner dans sa voiture, aux plaques diplomatiques, jusqu'à l'aéroport, pour être sûr d'éviter les fouilles des services secrets. Oui, là, il a vraiment de la chance. Hein. En tant que journaliste, on lui ouvre les portes assez grandes, c'est vrai. Et le chauffeur, il est resté avec moi jusqu'au bout, même pendant les fouilles. Lorsque je l'ai quitté, je l'ai vu de loin me faire un genre de signe de victoire avec le pouce. Je cherche ma place dans l'avion, quand une main me touche l'épaule. Un homme de grande taille me dit être un ami et me demande gentiment si j'ai besoin de quelque chose. L'ambassadrice m'a donné votre signalement pour vérifier avec vous que dans l'avion et en arrivant, tout se passe bien maintenant. Le pilote indique aux voyageurs d'attacher leur ceinture. Je regarde mon téléphone portable avant de l'éteindre. Il est 1h du matin, la même heure qu'en Syrie. J'arrive dans 4 heures. L'heure à Paris sera à peine différente. Je ne traverse pas l'espace, mais le temps. Je quitte ce Moyen-Âge qui contrôle le Moyen-Orient et je gagne une époque que je ne connais pas encore. Je suis un étranger qui part vers l'anonyme. Eh bien, on va le laisser partir et on va faire une pause musicale pour retrouver en effet un certain nombre de souvenirs à Paris et voir ce qui s'est passé dans sa vie à ce moment-là et avant.
quel ami.
Écoutions des musiques et des chants d'exil, un enregistrement qui date de 2017, je crois, à la Maison des Cultures du Monde. Donc, une femme puis un homme qui chantent la douleur de leur exil. C'est aussi ce que nous dit Omar Youssef Souleymane et ce qu'il nous dit à propos de son arrivée, c'est d'abord le dépaysement total, on l'a vu, hein. Entre Amman et Paris, je suis entre le ciel et la terre. Paris n'est pas une ville, mais un monde. Je ne sais pas où elle commence ni où elle finit. Moi qui ai vécu la plus grande partie de ma vie dans une ville de 50 000 habitants, je suis perdue dans un voyage dans le temps. À Paris, chaque rue est une époque. Des bâtiments espacés de 10 mètres le sont de 10 siècles. Rue de Paradis, je marche perdue. Je répète inlassablement à voix basse, rue de Paradis, pour me souvenir de mon adresse. Tout près, il y a un passage, le passage Brady. Je l'arpente des heures durant. Il me tient lieu de souk, comme le souk à la Midia à Damas. Le parfum des épices indiennes, le bruit particulier qui y règne, le décor chargé me donne un sentiment oriental, oui. Dès que j'en sors, je me sens aussi perdue dans le labyrinthe des rues que dans certains quartiers de la vieille Damas où les ruelles mènent à d'autres ruelles et où le promeneur s'égare avec l'impression de ne jamais pouvoir retrouver son chemin. Le chemin de Damas, le chemin de Damas comme Paul de Tarse. Moi, je marche à l'aveugle, à l'infini, et j'essaye de trouver ma voie.
Au début de l'année 2013, la préfecture m'a inscrit à des cours de français. Je parle et lis l'anglais, mais j'ai dû réapprendre les caractères et leur agencement pour assimiler cette langue latine. Si c'est là que j'ai appris la grammaire, la langue, c'est en parlant que les gens autour de moi, avec les gens autour de moi et grâce aux chansons françaises. Jacques Brel ou Édith Piaf sont très écoutés dans les pays arabes. YouTube a perfectionné mon éducation. Et « Plus belle la vie » fut une mine d'or pour me familiariser avec la vie quotidienne des Français.
Des Marseillais.
Cela m'a donné une curieuse façon de m'exprimer. Par exemple, au téléphone, je dis « Ne me quitte pas » à la place de « Ne quitte pas ». Et quand je fais les courses, je ne sais pas faire la différence entre les mots masculins et les féminins. Alors j'achète toujours deux produits, deux paquets de yaourts, deux baguettes, deux fruits. Le pluriel me sauve. Avec le temps, cette langue me paraît charmante. Je prends goût à cette prononciation qui module à peine les syllabes. Dans la langue arabe, tout sort de la gorge. En français, tout est au bout de la langue. Sans le savoir, je crée de nouvelles expressions. Quelqu'un me demande un jour « Es-tu syrien ?» Je réponds « Oui, syrien. » L'infime glissement de la prononciation m'échappe. Même voix, autre son.
Eh oui, la différence entre les sons « i » et « e », c'est assez ténu. Pour des oreilles orientales, enfin des oreilles arabes. Par exemple, « il » et « elle », ce qui paraît, je sais pas, pour un français un peu basique, eh ben non, c'est pas du tout facile de faire la différence entre « il » et « elle » pour un Syrien, justement, qui arrive en France. Donc, ça peut nous paraître bizarre, quelquefois, ces glissements sonores ou ces glissements de sens, mais évidemment, c'est ça la difficulté. Alors, revenons à Omar. Il nous dit « Je marche dans Paris. Chaque pas me rend plus certain que ce n'est pas seulement, comme les Arabes l'imaginent, la ville des parfums, de la mode, des Champs-Élysées, mais Paris, pour un exilé, ce sont les bureaux administratifs, le métro, les cafés dans les rues populaires. Et là, je rencontre des gens de tous les continents. Je tire d'eux un savoir que je ne trouve nulle part ailleurs. » Je partage la souffrance du quotidien, de l'arrachement, et cela crée des ponts entre les civilisations. Créer ces ponts-là, c'est l'ambition secrète de tout étranger qui vit ainsi entre deux chaises de café. Je marche pendant des heures comme à l'ombre d'une mémoire de l'Orient. Dans mon sac, j'ai deux livres, un en arabe, l'autre en français. Souvent, je cherche un jardin pour lire. Mais je finis par passer le temps en balade à observer ce qu'il y a d'étrange autour de moi. Sur un trottoir, les restaurants halal qui abordent des enseignes Majarza Islamia, massacre islamique. Oui, massacre islamique, évidemment, c'est la façon de tuer l'animal. Et puis, dans ce quartier, de l'autre côté, sur l'autre trottoir, les sex shops et les boîtes de striptease. Les mendiants et les touristes, les familles et les gens seuls, les couleurs de peau si variées, les accents si différents. Mais personne ne sourit aux passants, personne ne se sourit, ni même les prostituées plantées à côté des SDF. Je rentre dans une épicerie, je dis « bonjour ». Son propriétaire arabe ignore qu'arabe je le suis aussi, et cela permet d'écouter ce qu'il dit aux amis qui s'attardent à côté de lui un temps infini. Je l'entends parler du djihad, de l'État corrompu, des chefs infidèles, de l'avenir de la France, qui est d'être un État musulman. Alors, je m'en vais poursuivre ma promenade ailleurs. Charlie Hebdo. Alors, je vais vous lire ce petit chapitre-là du livre en ayant très vif le souvenir justement de ce qu'il a été ou de ce que ça a été et comment ça a été vécu par des amis syriens, justement migrants et réfugiés. L'attaque contre Charlie Hebdo, pour eux, ça a été peut-être encore plus dramatique que pour les Français. Parce que d'un seul coup, eux, ils se sont sentis justement arabes et ils se sont sentis accusés finalement directement de ces crimes-là. Et dans les 8 jours qui ont suivi, quand on leur demandait qui ils étaient italiens, espagnols ou cubains, mais ils n'étaient plus syriens parce qu'ils ne pouvaient plus assumer de venir du Moyen-Orient, sachant ce qui s'était passé. Alors, on vous lit ça. 12 personnes tuées dans les bureaux de Charlie Hebdo ce matin. Voilà ce que je lis aujourd'hui dans la presse. J'appelle un ami français, je lui demande ce qu'il se passe. Il pleure, il parle d'islamisme, de haine de la démocratie, de tueurs. Je cours là-bas, je veux comprendre, mais les rues sont fermées. Je ne vois rien d'autre que des forces de l'ordre dans tous les sens. Depuis le début de la révolution syrienne, chaque jour a apporté son lot de victimes. Et je pense à ce moment-là, ce jour-là, que la guerre se rapproche et qu'elle vient jusqu'ici. Place du Châtelet, il y a un va-et-vient de voitures de police. Je marche jusqu'à Notre-Dame, j'entre dans la cathédrale, elle est calme, je ressens un sentiment de paix, mais j'entends le son des cloches et bientôt je me retrouve avec ces cloches assis dans un jardin de Syrie, sur un banc planté là sur les rives, sur un banc qui avait, dont l'arbre avait poussé sur les rives de l'Euphrate. Devant le métro Saint-Michel, une fille portant un manteau noir me demande son chemin pour aller place de la République. Je remarque à son accent qu'elle n'est pas française. Elle a un joli visage mat, des cheveux noirs, des yeux bruns, un corps mince. Nous marchons ensemble en silence. Nous croisons les visages des gens, nous croisons les ambulances partout dans les rues. Et elle me dit soudain qu'elle est cubaine et réfugiée politique en France. Voilà, moi quelques jours je vais être aussi cubain, réfugié politique en France.
Sur la place, des manifestants brandissent des pancartes. Dans la foule, je perds la jeune femme de vue. Les gens se regroupent ça et là, mais je reste seule. M'approchant de la statue qui s'élève au centre de la place, je lève mon stylo, comme tout le monde. Les slogans résonnent. « Charlie, Charlie, Charles Liberté !» D'un coup, me reviennent les slogans du début de la Révolution. « Hor, hor, horia !» Libère, libère, liberté. Je revis le rêve des premières manifestations en Syrie. La différence, c'est qu'ici, il n'y a pas de militaires qui ouvrent le feu face aux manifestants. En Syrie, nous manifestions contre une dictature. En France, après Charlie, contre un islam terroriste. Et finalement, c'est la même chose. Mais pour le peuple aussi, c'est la même chose. Il cherche la lumière. Je me rends compte, au pied de la statue de la place de la République, à quel point ce pays est devenu une partie de moi. Il a sauvé ma vie, sauvé ma liberté. Ses difficultés sont mes difficultés. Mes amis français, chaque fois que je lève mon verre en disant « Vive la République !», rient en me demandant « Mais laquelle ?» Pour eux, dire ce genre de choses, c'est être nationaliste. Ils ne paraissent pas heureux de la situation politique et économique en France. Être français ne semble contenter personne. D'ailleurs, ils votent blanc. Sur la statue, un garçon et une fille sont montés, Coran en main, en arrachant les pages et dispersent les feuilles. À ce moment-là, des gens dans la foule leur crient « Pas d'amalgame !» En regardant les pages voltées dans les airs, j'ai l'impression d'y lire le récit de ma vie. Quand je croyais à l'idée d'Al-Qaïda, quand mon rêve le plus cher était d'être un djihadiste. Si je ne m'étais pas libérée de cela, j'aurais pu être un des tueurs de ce matin. Les gens rentrent peu à peu chez eux à pied. Les métros sont fermés. Je marche vers la rue de Paradis, mais je ne suis pas pressée. Mes pas me portent un peu au hasard. La lune est presque pleine. De nouveau, elle tire sur le rouge. Dans une petite rue, j'entends l'écho de mes pas, sourd dans le silence de la nuit, comme une voix qui me raconterait cette époque de ma vie qui a commencé à la fin du siècle dernier en Arabie Saoudite.
Oui, donc ce choc des attentats contre Charlie Hebdo, c'était effectivement un choc aussi pour tous ceux qui peuvent ressembler, entre guillemets, à des Arabes et être soupçonnés d'être des terroristes. Mais pour Omar Youssef Souleyman, c'est quelque chose de très particulier, puisque dans son histoire, et c'est ce qu'il nous raconte dans la deuxième partie du livre, il a vécu la fin de son enfance et le début de son adolescence en Arabie Saoudite. Et il a vécu l'enfance ou l'adolescence de quelqu'un qui aurait pu devenir, comme le titre du livre, un petit terroriste. Donc, tous ses souvenirs d'Arabie Saoudite sont vus dans son livre témoignage, même si c'est aussi un peu romancé. Tous ses souvenirs sont vus par les yeux de l'enfant, sont vus, je dirais, à hauteur d'enfant. Et je ne vous lirai pas de passage de ces souvenirs, parce que précisément, ce sont les passages dans lesquels Omar Youssef Souleyman dit son retrait, son recul et quelquefois son horreur d'un islam d'un islam trop sévère, d'un islam trop rigoureux, qui fait qu'on ne peut plus y adhérer et que pour les enfants, c'est une tentation inverse, mais c'est une tentation terrible de devenir justement militant de cet islam sévère, rigoureux, salafiste et éventuellement terroriste. Donc il y a toute une partie du livre qui est, c'est vrai, tout à fait intéressante, mais un peu difficile à lire au micro, puisque ce sont comme des paroles d'enfants à la fois naïfs et critiques d'un système qui le tente, qui le séduit et qui en même temps le fait souffrir et qu'il ne peut pas tolérer. Alors ce système qui le fait souffrir, il va être amené à le rejeter, il va être amené à le critiquer d'abord puis à le rejeter. Et quand il rentre avec ses parents en Syrie, ben, finalement le soulèvement a lieu historiquement assez vite. Mais avant de... avant d'en revenir à sa vie, à lui, on va juste lire quelques courtes pages de témoignages qui tout de même étaient tout à fait intéressantes pour nous occidentaux sur le pèlerinage à la Mecque.
Nous avons pris une douche, coupé nos ongles, revêtu les deux pièces de tissu de la tenue du pèlerin et accompli les génuflexions. La limousine nous a amenés jusqu'au bus de la compagnie chargée de transporter les pèlerins, de les loger et de les nourrir pour 2000 rials, soit environ 1000 euros. Il y avait beaucoup d'embouteillages pour sortir de Riyad à cause des checkpoints. L'Arabie Saoudite était en état d'alerte après les menaces proférées par Al-Qaïda contre les Américains. Mais, comme nous étions des pèlerins, les soldats nous ont laissés passer. Dans le car, les pèlerins venaient du monde entier, Pakistan, Inde, Philippines, Arabie Saoudite. Il y avait même une famille syrienne, une femme et un homme âgé avec leurs deux filles, à côté de laquelle nous étions assis. Il nous a fallu 24 heures pour atteindre la Mecque. Les deux filles, qui parlaient avec un accent syrien, attisèrent ma curiosité. J'avais peur de perdre ma sérénité. Je m'étais habillée selon la tradition. Mon épaule gauche était couverte et la droite dégagée. Je me suis levée pour aller prendre une bouteille d'eau auprès du chauffeur et quand je suis revenue à ma place, la partie supérieure de ma tenue est tombée, dévoilant mon ventre et ma poitrine. Je l'ai remise et en redressant la tête, j'ai constaté qu'une des deux Syriennes me fixait. Comme elle avait mis son ihram à Riyad, on voyait son visage qu'il est interdit aux femmes de couvrir pendant le pèlerinage. Elle devait avoir 20 ans. Le poignet sous le menton, les lèvres rouges naturellement, les yeux limpides, elle a scié quand son regard a croisé le mien. Au bout de plusieurs kilomètres, il n'y avait plus aucun bruit dans le bus, excepté la respiration des passagers endormis. Je n'arrivais pas à m'assoupir. La fille avait le visage tourné vers moi, la bouche entrouverte comme si elle souriait. Le bus a quitté la route et percuté une colline de sable. Autour de nous, l'obscurité. J'ai sorti la tête par la fenêtre et j'ai vu la Syrienne. Elle a ri. Elle portait une robe bleue qui s'arrêtait aux genoux. Je me suis approchée d'elle, j'étais nue, mon ihram étant resté dans le bus. Tout en lui touchant le bras, je lui ai demandé où nous étions. « Je ne sais pas, mais nous ne sommes pas perdus », m'a-t-elle répondu. Elle a secoué la poussière de ses vêtements et s'est mise à courir. Je l'ai suivie. Arrivée devant une balançoire, nous nous sommes assis. Poussés par le vent, nous nous balancions toujours plus haut. Soudain, nous nous sommes envolés et nous avons traversé des nuages gris. Puis, quand nous avons commencé à tomber, sa robe s'est transformée en montgolfière. Je voulais voir son corps, mais la voix du chauffeur m'a réveillée. Je n'avais dormi que 2 heures. Quand nous sommes arrivés à Karn al-Manazil, d'un côté de la route se succédaient des commerces, des restaurants et une mosquée. De l'autre, un espace ouvert sans végétation ni construction. J'ai rempli ma poitrine d'air. Devant cette étendue désertique, je me suis sentie libre. L'étoile est pareille aux grains de sable. Rien ne les distingue, excepté la ligne de l'horizon. Un instant, je me suis pris pour Dieu et j'ai cru être immortel. »
Oui, c'est un petit peu ce que je vous disais, c'est l'exemple de de ce récit, dans lequel il y a à la fois la naïveté et les rêves de l'enfance ou de l'adolescence, et puis les premières tentations aussi, et ces tentations qui iront dans le sens également du détachement de la religion. La voix de la Syrienne me parvenait aux oreilles. Elle était comme une musique. Je repensais à la colline et à la robe bleue. J'ai demandé à Allah de me pardonner. Je n'étais pas là pour songer aux femmes. J'ai haussé le ton pour ne plus l'entendre et elle a tourné son visage vers moi. À ce moment-là, oui, ben oui, j'aurais aimé être nue. Donc les rêves, bien sûr, les tentations, mais tout de même, le pèlerinage s'est fait pour aller voir la Kaaba. Donc, allons-y. Le tombeau a été bâti par le messager à son départ de la Mecque pour Médine. On entre dans une grande salle par une porte et on sort par une autre. De cette façon, le pèlerin tourne autour de la sépulture. Le sépulcre aux parois dorées était à notre gauche, entouré d'une grille de métal. Entre celle-ci et les murs, des cheikhs saoudiens et des policiers empêchaient les gens de toucher la tombe. Ils veillaient aussi à ce que personne ne s'arrête. Mon père, les larmes aux yeux et la voix tremblante, m'a dit « Le messager de Dieu est ici, tu te rends compte ?» Mais je ne ressentais rien. J'ai prononcé les paroles rituelles « Salam sur toi, ô messager de Allah. As-salam sur toi, ô prophète de Allah. As-salam sur toi, ô élu de Allah. As-salam sur toi, ô meilleur des créatures de Allah. As-salam sur toi, ô bien-aimé de Allah. » As-salam sur toi, ô toi qui avertis. As-salam sur toi, ô toi annonciateur de bonnes nouvelles. As-salam sur toi, ô toi qui es pur. As-salam sur toi, ô prophète de la communauté. Ô messager du Seigneur des mondes. As-salam sur toi, ô maître des messagers et sceau des prophètes. Puis nous sommes sortis. Nous avons déambulé dans les rues étroites et tortueuses. Nous étions là, oui, dans ces rues en terre battue. J'y ai cherché un souvenir du prophète, de sa maison, de son action. Mais rien dans cette ville ne m'a mené à lui, si ce n'est à sa tombe. Voilà, c'est un petit peu ce récit de pèlerinage qui va continuer et qui va, au fur et à mesure que l'enfant devient adolescent, que l'adolescent critique la religion, qui va le détacher de cette religion. Plus de 3 millions de croyants étaient venus cette année-là en pèlerinage. À midi, le soleil brûlait la peau. Au centre de la mosquée de la Mecque se trouve la Kaaba. Nous nous étions mis d'accord pour nous retrouver, mon père, mon frère et moi, devant la porte Al-Salam, la porte de la paix, au cas où nous nous perdrions. Je voulais arriver jusqu'à la pierre noire enchâssée dans un mur de la Kaaba. Je me souvenais de ce que le cheikh avait dit. C'est une pierre du paradis, elle était blanche comme la neige, mais avec le temps, elle est devenue noire à cause des péchés des hommes. Les Arabes, avant l'islam, la vénéraient et l'embrassaient. Le pèlerin doit la toucher, mais faire un signe de loin, aussi en disant « Dieu est le plus grand » et il ordonne de tourner autour d'elle. À chaque pas, en me rapprochant de la pierre, c'était comme si je recevais des coups sur mon corps. Et puis, j'ai essayé de revenir sur mes pas, mais je ne pouvais pas, j'étais pris au milieu de la marée humaine. Je me suis enfin trouvée près de la pierre. Oui, de plus en plus près. Au centre d'un cadre d'argent, j'ai vu des petites pierres plus sombres qui constituaient en fait cette énorme pierre noire. Un des pèlerins à côté de moi s'est évanoui. Comment cette pierre était-elle descendue du paradis? Était-ce pendant la création? Mohammed l'avait conservée, bien que l'islam soit une religion monothéiste? C'était un signe païen? J'ai chassé cette pensée diabolique de mon esprit et j'ai continué à tourner. À côté de moi, un homme avec une barbe blonde m'a demandé d'où je venais. « Moi, je suis français », m'a-t-il dit. « Mais ma mère est algérienne. J'ai payé pour venir ici. Regarde, ici, les gens ne réfléchissent plus. Ils croient. C'est pour ça que nous tournons. » Avant que j'aie le temps de lui répondre, un autre groupe de pèlerins nous a séparés. Je l'ai cherché dans la foule, mais il avait disparu. J'ai effectué les 7 tours. Le sol restait frais grâce à un système de refroidissement situé en dessous qui permettait aux pèlerins de marcher pieds nus. Oui, finalement, nous étions des hommes en blanc gravitant autour d'un cube noir. Les femmes en noir, elles, contournaient la pierre. Elles étaient plus loin, moins proches de la pierre. On pouvait payer cher pour ces circonvolutions, mais nous aurions pu faire la même chose autour de n'importe quel bâtiment, dans n'importe quelle ville. Quelle était la différence? Allah est-il vraiment présent à la Mecque plus qu'ailleurs? Voilà, c'est le doute qui s'installe, enfin c'est le doute qui commence, et c'est le doute qui va s'installer dans l'esprit de Omar Youssef Souleyman. En fait, le pèlerinage à la Mecque, lui, ça sera, pour lui, ce sera le début du doute. Et quand il rentre ensuite, d'abord à Riyad, puis en Syrie, le doute devient plus grand. Il lit des auteurs occidentaux, on l'a vu tout à l'heure. Il relit des auteurs arabes classiques qui le séduisent beaucoup par leur inspiration soufie, par exemple, et par la distance qu'ils mettent quelquefois dans la croyance. Donc, en fait, en rentrant en tant qu'adolescent en Syrie, il est en pleine confusion. Il n'a pas ressenti, lorsqu'il est allé à la Mecque, ce foudroiement, disons, de la croyance, cette grâce que les chrétiens appelleraient ainsi. Et le témoignage d'Allah ou de Mohammed n'a pas été reçu dans son intégralité. Finalement, les copains qu'il se fait en Syrie quand il revient chez lui sont des copains qui ne croient pas vraiment non plus et qui sont plus attachés à la religion par leur famille que par leur croyance en tant que telle. Donc, il se sépare de cette religion et il ne croit plus, c'est là qu'il n'est plus, entre guillemets, un petit terroriste. Il ne croit plus à la justification du djihad, il ne croit plus à l'appel des salafistes à redresser l'axe du monde et à faire que, justement, le monde devienne musulman. Sur le site djihadiste, des cheikhs ont des visages durs. Ils entreront au paradis. Ils attestent qu'il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah. Mais c'est un cauchemar. En revanche, une fois qu'ils auront disparu, il restera Aristote, Platon, Einstein, Edison, Aragon, Éluard, Rimbaud, et puis Marilyn Monroe, Cameron Diaz, Scarlett Johansson, Monica Bellucci ou Angelina Jolie. Je suis un hérétique. Sans aucun doute, Allah est en colère contre moi. Il pourrait me faire mourir immédiatement. Il pourrait me faire aller en enfer très vite, mais je vais choisir l'exil, je vais choisir une autre vie, je vais choisir la rue de paradis. Bon, je vous laisse sur ces derniers mots de Omar Youssef Souleyman. On va vous mettre des rediffusions pour Noël et le jour de l'an. Et puis, on va se retrouver en 2025. J'espère que le monde tournera toujours aussi rond. À bientôt !